Chapitre 9. Des grosses racines et gros mil dont les sauvages font farine, qu'ils mangent au lieu du pain, et de leur breuvage, qu'ils nomment kawin. Puisque nous avons entendu au précédent chapitre comme nos sauvages sont parés et équipés par le dehors, il me semble, en déduisant les choses par ordre, qu'il ne conviendra pas mal de traiter maintenant tout d'un fil des vivres qui leur sont communs et ordinaires. Sur quoi faut noter en premier lieu qu'encore qu'il n'ait, et par conséquent ne sème ni ne plante blé ni vigne en leur pays, que néanmoins, ainsi que je l'ai vu et expérimenté, on ne laisse pas pour cela de s'y bien traiter et d'y faire bonne chère, sans pain ni vin. Ayant donc nos Américains en leur pays, deux espèces de racines qu'ils nomment aipi et maniot, lesquelles, en 3 ou 4 mois, croise dentaire aussi grosse que la cuisse d'un homme et longue de pied et demi, plus ou moins, quand elles sont arrachées, les femmes, car les hommes ne s'y occupent point, après les avoir fait sécher au feu sur le boucan, tel que je le décrirai ailleurs, ou bien quelquefois les prenant toutes vertes, à force de les râper sur certaines petites pièces pointues, fichées et arrangées sur une pièce de bois plate, tout ainsi que nous raclons et ratissons les fromages et noix muscades, elles les réduisent en farine, laquelle est aussi blanche que neige. Et lors, cette farine ainsi crue, comme aussi le son blanc qui en sort, dont je parlerai tantôt, a la vraie senteur de l'amidon fait de pur froment, longtemps trempé en l'eau, quand il est encore frais et liquide, tellement que depuis mon retour par de ça, m'étant trouvé en un lieu où on en faisait, ce flair me fit ressouvenir de l'odeur qu'on sent ordinairement dans les maisons des sauvages, quand on y fait de la farine de racine. Après cela, et pour la prêter, ces femmes brésiliennes ayant de grandes et fort larges poils de terre, contenant chacune plus d'un boisseau, qu'elles font elles-mêmes assez proprement pour cet usage, les mettant sur le feu, et quantité de cette farine dedans, pendant qu'elles cuisent, elles ne cessent de le remuer avec des courges mi-parties, desquelles elles se servent ainsi que nous faisons d'écuelles. Cette farine, cuisant de cette façon, se forme comme petites grelasses ou dragées d'apothicaire. Elles en font de deux sortes, à savoir de fort cuites et dures, que les sauvages appellent wiantan, de laquelle, parce qu'elles se gardent mieux, ils portent quand ils vont en guerre, d'autres moins cuites et plus tendres, qu'ils nomment ouipon, laquelle est d'autant meilleure que la première que, quand elle est fraîche, vous diriez, en la mettant en bouche et en la mangeant, que c'est du mollet de pain blanc tout chaud. L'une et l'autre, cuisant, changent aussi ce premier goût que j'ai dit en un plus plaisant et suave. Au surplus, combien que ces farines, nommément quand elles sont fraîches, soient de fort bon goût, de bonne et de facile digestion, tant il y a néanmoins que, comme je l'ai expérimenté, elles ne sont nullement propres à faire le pain. Vrai qu'on en fait bien de la pâte, laquelle, s'enflant comme celle de blé avec le levain, est aussi belle et blanche que si c'était fleur de froment. Mais en cuisant, la croûte et tout le dessus se séchant et brûlant, quand on vient à couper ou rompre le pain, vous trouvez que le dedans est tout sec et retourné en farine. Partant, je crois que celui qui rapporte premièrement que les Indiens qui habitent à 22 ou 23 degrés par-delà l'équinoxial, qui sont pour certains nos Tuyupinambu, vivaient de pain gratté, entendant parler des racines dont il est question, faute d'avoir bien observé ce que j'ai dit, s'était équivoqué. Néanmoins, l'une et l'autre farine sont bonnes à faire de la bouillie, laquelle les sauvages appellent mingan, et principalement quand on la détrempe avec quelques bouillons gras, car devenant l'or grumeleuse comme du riz, ainsi apprêtée, elle est de fort bonne saveur. Mais quoi que s'en soit, nos Tuyupinambu, tant hommes, femmes qu'enfants, étant dès leur jeunesse accoutumés de la manger toute sèche au lieu du pain, sont tellement duits et façonnés à cela que, la prenant avec leurs 4 doigts dans la vaisselle de terre ou autre vaisseau où ils la tiennent, encore qu'ils la jettent d'assez loin, ils la rencontrent néanmoins si droit dans leur bouche qu'ils n'en épanchent pas un seul brin. Que si entre nous, Français, les voulant imiter, la pension manger de cette façon, n'étant point comme eux stylés à cela, au lieu de la jeter dans la bouche, nous l'épanchions sur les joues et nous enfarinions tout le visage. Partant, sinon que ceux qui principalement portaient barbe eussent voulu être accoutrés en joueurs de farce, nous étions contraints de la prendre avec des cuillères. Davantage, il adviendra quelquefois qu'après que ces racines d'aipi et de maniot, à la façon que je vous ai dit, seront râpées toutes vertes, les femmes faisant de grosses pelotes de la farine fraîche et humide qui en sort, les pressurant et pressant bien fort entre leurs mains, elles en feront sortir du jus presque aussi blanc et clair que lait, lequel, elles retenant dans des plats et vaisselles de terre, après qu'elles l'ont mis au soleil, la chaleur duquel le fait prendre et figer comme caillé de fromage. Quand on la veut manger, le renversant dans d'autres poêles de terre, en nicelle les faisant cuire sur le feu comme nous faisons les omelettes d'œufs, il est fort bon ainsi apprêté. Au surplus, la racine d'aipi non seulement est bonne en farine, mais aussi quand tout entière on la fait cuire au cendre ou devant le feu, s'attendrissant, fendant et rendant l'or farineuse, comme une châtaigne rôtie à la braise, de laquelle aussi elle a presque le goût, on la peut manger de cette façon. Cependant, il n'en prend pas de même de la racine de maniot, car n'étant bonne qu'en farine bien cuite, ce serait poison de la manger autrement. Au reste, les plantes ou tiges de toutes les deux, différentes bien peu l'une de l'autre quant à la forme, croissent de la hauteur des petits genévriers, et ont les feuilles assez semblables à l'herbe de poenia ou pivoine en français. Mais ce qui est admirable et digne de grande considération en ces racines d'aipi et de maniot de notre terre du Brésil, gît en la multiplication d'icelles, car comme ainsi soit que les branches soient presque aussi tendres et aisées à rompre que cheveux notes, si est-ce néanmoins qu'autant qu'on en peut rompre et ficher le plus avant qu'on peut dans la terre, sans autrement les cultiver, autant a-t-on de grosses racines au bout de 2 ou 3 mois. Outre plus, les femmes de ce pays-là, fichant aussi en terre un bâton pointu, plantent encore en cette sorte de ces 2 espèces de gros mil, à savoir blanc et rouge, que vulgairement on appelle en France blé sarrasin. Les sauvages le nomment avati, duquel, semblablement, elles font de la farine, laquelle se cuit et mange en la manière que j'ai dit ci-dessus que fait celle des racines. Et crois, contre toutefois ce que j'avais dit en la première édition de cette histoire où je distinguais les 2 choses, lesquelles néanmoins, quand j'y ai bien pensé, ne font qu'une, que cet avati des Américains est ce que l'historien indois appelle maïs, lequel, selon qu'il récite, sert aussi de blé aux Indiens du Pérou, car voici la description qu'il en fait. La canne de maïs, dit-il, croît de la hauteur d'un homme et plus. Elle est assez grosse et jette ses feuilles comme celles des cannes de marais. L'épi est comme une canne de pin sauvage, le grain gros et n'est ni rond, ni carré, ni si long que notre grain. Il se mûrit en 3 ou 4 mois, voire aux pays arrosés de ruisseaux en 1 mois et demi. Pour un grain, il en rend 100, 200, 300, 400, 500, et s'en est trouvé qui a multiplié jusqu'à 600. Qui démontre aussi la fertilité de cette terre possédée maintenant des Espagnols. Comme aussi un autre a écrit qu'en quelque endroit de l'Inde orientale le terroir est si bon qu'au rapport de ceux qui l'ont vu, le froment, l'orge et le millet y passent 15 coudées de hauteur. Ce que dessus est en somme tout ce de quoi j'ai vu user ordinairement pour toutes sortes de pains au pays des sauvages, en la terre du Brésil, dite Amérique. Cependant, les Espagnols et Portugais, à présent habitués en plusieurs endroits de ces Indes occidentales, ayant maintenant force blé et force vin que cette terre du Brésil leur produit, ont fait preuve que ce n'est pas pour le défaut du terrain que les sauvages n'en ont point. Comme aussi nous autres Français, à notre voyage y ayant porté des blés et grains et des cèpes de vigne, j'ai vu, par l'expérience, si les champs étaient cultivés et labourés comme ils sont par-de-ça, que l'un et l'autre y viendraient bien. Et de fait, la vigne que nous plantâmes, ayant très bien repris, et jeté de fort beaux bois et de belles feuilles, faisait grande démonstration de la bonté et fertilité du pays. Vrai est que pour l'égard du fruit, durant environ 1 an que nous fûmes là, elle ne produisit que des aigrés, lesquels encore, au lieu de mûrir, s'endurcirent et demeurèrent secs. Mais comme j'ai su de naguère de bons vignerons, cela étant ordinaire que les nouveaux plants dans les premières et secondes années ne rapportent sinon des lambrusques et vérins, dont on ne fait pas grand cas, J'ai l'opinion que si les Français et autres qui demeurèrent en ce pays-là après nous continuèrent à façonner notre vigne, que les ans suivants, ils en eurent de beaux et bons raisins. Quant au froment et au seigle que nous y semâmes, voici le défaut qui y fut. C'est que, combien qu'ils vinssent beaux en herbe, et même parvinssent jusqu'à l'épi, néanmoins le grain ne s'y forma point. Mais d'autant que l'orge y graina et vint à juste maturité, voire multiplia grandement, il est vraisemblable que cette terre étant trop grasse, pressait et avançait tellement le froment et le seigle, lesquels, comme nous voyons par de ça, avant que produire leurs fruits veulent demeurer plus longtemps en terre que l'orge, qu'étant trop tôt montés, comme ils furent incontinents, ils n'eurent pas le temps pour fleurir et former leurs grains. Partant que pour rendre les champs plus fertiles et meilleurs, en notre France on les fume et en Grèce, au contraire j'ai opinion pour faire que cette terre neuve rapporta mieux le froment et semblables semences, qu'en la labourant souvent, il la faudrait lasser et dégraisser pour quelques années. Et certes, comme le pays de nos Touillou-Pinambou est capable de nourrir 10 fois plus de peuples qu'il n'y en a, tellement que moi, y étant, me pouvais vanter d'avoir à mon commandement plus de 1000 arpents de terre, meilleurs qu'il n'y en ait en toute la Beauce, qui doute si les Français y fussent demeurés, ce qu'ils eussent fait, et y en auraient maintenant plus de 10 000 si Villegagnon ne se fût révolté de la religion réformée, qu'ils n'en eussent reçu et tiré le même profit que font maintenant les Portugais qui en sont si bien accommodés. Cela soit dit en passant, pour satisfaire à ceux qui voudraient demander si le blé et le vin étant semés, cultivés et plantés en la terre du Brésil, n'y pourraient pas bien venir. Or, en reprenant mon propos, afin que je distingue mieux les matières que j'ai entrepris de traiter, avant encore que je parle des chairs, poissons, fruits et autres viandes du tout dissemblables de celles de notre Europe, de quoi nos sauvages se nourrissent, il faut que je dise quel est leur breuvage et la façon comme il se fait. Sur quoi faut aussi noter, en premier lieu, que comme vous avez entendu ci-dessus, les hommes d'entre eux ne se mêlent nullement de faire la farine, mais en laissent toute la charge à leurs femmes, qu'aussi font-ils le semblable, voire sont encore beaucoup plus scrupuleux, pour ne s'entremettre de faire leur breuvage. Partant, outre que ces racines d'aipi et de maniotte accommodées de la façon que j'ai tantôt dit leur servent de principale nourriture, voici encore comme elles en usent pour faire leur breuvage ordinaire. Après donc qu'elles les ont découpées aussi menues qu'on fait par de ça les raves à mettre au pot, les faisant ainsi bouillir par morceaux avec de l'eau dans de grands vaisseaux de terre, quand elles les voient tendres et amollies, les ôtant de dessus le feu, elles les laissent un peu refroidir. Cela fait plusieurs d'entre elles étant accroupies à l'entour de ces grands vaisseaux, prenant dans iceux ces rouelles de racines ainsi mollifiées, après que, sans les avaler, elles les auront bien mâchées et tortillées parmi leurs bouches, reprenant chacun morceau l'un après l'autre, avec la main, elles les remettent dans d'autres vaisseaux de terre qui sont tout prêts sur le feu, lesquels elles le font bouillir d'air-chef. Ainsi remuant toujours ce tripotage avec un bâton jusqu'à ce qu'elles connaissent qu'il soit assez cuit, l'ôtant pour la seconde fois de dessus le feu, sans le couler ni passer, mais le tout ensemble de versant dans d'autres plus grandes cannes de terre, contenant chacune environ une feuillette de vin de Bourgogne, après qu'il a un peu écumé et cuvé, couvrant ses vaisseaux, elles y laissent ce breuvage, jusqu'à ce qu'on le veuille boire en la manière que je dirai tantôt. Et afin de mieux exprimer le tout, ces derniers grands vases dont je viens de faire mention sont faits presque de la façon des grands cuviers de terre, lesquels, comme j'ai vu, ont fait la lessive en quelques endroits de Bourbonnois et d'Auvergne, excepté toutefois qu'ils sont plus étroits par la bouche et par le haut. Or, nos Américains, faisant semblablement bouillir et mâchant aussi puis après dans leur bouche de ce gros mil, nommé avati en leur langage, en font encore du breuvage de la même sorte que vous avez entendu qu'elles font celui des racines susmentionnées. Je répète nommément que ce sont les femmes qui font ce métier. Car combien que je n'ai point vu faire de distinction des filles d'avec celles qui sont mariées, comme quelqu'un a écrit, tant il y a néanmoins qu'outre que les hommes ont cette ferme opinion que s'ils mâchaient tant les racines que le mil pour faire ce breuvage, qu'il ne serait pas bon, encore réputeraient-ils aussi indécent à leur sexe de s'en mêler, qu'à bon droit, ce me semble, on trouve étrange de voir ces grands drébraillés paysans de Bresse et d'autres lieux par-de-ça prendre des quenouilles pour filer. Les sauvages appellent ce breuvage caouin, lequel étant trouble et épais comme lit, a presque goût de lait aigre. Et en ont de rouge et de blanc, comme nous avons du vin. Au surplus, tout ainsi que ces racines et ce gros mil dont j'ai parlé croissent en tout temps en leur pays, aussi quand il leur plaît, font-ils en toute saison faire de ce breuvage, voire quelquefois en telle quantité que j'en ai vu pour un coup plus de 30 de ces grands vaisseaux, lesquels je vous ai dit tenir chacun plus de 60 pintes de Paris, pleins et arrangés en long au milieu de leur maison, où ils sont toujours couverts jusqu'à ce qu'il faille caouiner. Mais avant que d'en venir là, je prie, sans toutefois que j'approuve le vice, que par manière de préface, il me soit permis de dire. Arrière, Allemands, Flamands, Lansquenets, Suisses, et tous qui faites carousse et profession de boire par-de-ça. Car comme vous-même, après avoir entendu comment nos Américains s'en acquittent, confesserez que vous n'y entendez rien au prix d'eux, aussi faut-il que vous leur cédiez en cet endroit. Quand donc ils se mettent après, et principalement quand avec les cérémonies que nous verrons ailleurs, ils tuent solennellement un prisonnier de guerre pour le manger, leur coutume, du tout contraire à la nôtre en matière de vin lequel nous aimons frais et clair, étant de boire ce caouin un peu chaud, la première chose que les femmes font est un petit feu à l'entour des cannes de terre où il est pour le tiédir. Cela fait, commençant à l'un des bouts à découvrir le premier vaisseau et à remuer et troubler ce breuvage, puisant puis après dedans avec de grandes courges parties en deux, dont les unes tiennent environ 3 chopines de Paris, ainsi que les hommes en dansant passent les uns après les autres auprès d'elles, leur présentant et bâillant à chacun en la main une de ces grandes gobelles toutes pleines, et elles-mêmes en servant de sommelier, n'oubliant pas de chopiner d'autant, tant les uns que les autres ne faillent point de boire et trousser cela tout d'une traite. Mais savez-vous combien de fois ? Ce sera jusqu'à temps que les vaisseaux, et y en eut-il une centaine, seront tous vidés, et qu'il n'y restera plus une seule goutte de caouin dedans. Et de fait, je les ai vus non seulement 3 jours et 3 nuits sans cesser de boire, mais aussi après qu'ils étaient si saouls et si ivres qu'ils n'en pouvaient plus, d'autant que quitter le jeu eût été pour être réputé efféminé et plus que chelme entre les Allemands, quand ils avaient rendu leur gorge, c'était à recommencer plus belle que devant. Et ce qui est encore plus étrange et à remarquer entre nous tous nous pinambou, est que, comme ils ne mangent nullement durant leur beuverie, aussi quand ils mangent, ils ne boivent point parmi leurs repas. Tellement que nous voyant entremêlés l'un parmi l'autre, ils trouvaient notre façon fort étrange. Que si on dit là-dessus, ils sont donc comme les chevaux. La réponse à cela d'un quidam joyeux de notre compagnie était que, pour le moins, outre qu'il ne les faut point brider ni mener à la rivière pour boire, encore sont-ils hors des dangers de rompre leur croupière. Cependant, il faut noter qu'encore qu'ils n'observent pas les heures pour dîner, souper ou collationner, comme on fait en ce pays par-de-ça, même qu'ils ne fassent point de difficulté s'ils ont faim de manger aussitôt à minuit qu'à midi, néanmoins, ne mangeant jamais qu'il n'ait appétit, on peut dire qu'ils sont aussi sobres en leur manger qu'excessifs en leur boire. Comme aussi quelques-uns ont cette honnête coutume de se laver les mains et la bouche avant et après le repas, ce que toutefois je crois qu'ils font pour l'égard de la bouche, parce qu'autrement ils l'auraient toujours pâteuse de ces farines faites de racines et de mil, desquelles j'ai dit qu'elles eussent ordinairement au lieu de pain. Davantage, parce que quand ils mangent, ils font un merveilleux silence, tellement que s'ils ont quelque chose à dire, ils le réservent jusqu'à ce qu'ils aient achevé. Quand, suivant la coutume des Français, ils nous ouaillaient, jasaient et caquetaient en prenant nos repas, ils s'en savaient bien moquer. Pour continuer mon propos, tant que ce caouinage dure, nos friponniers et gabelontants d'Américains, pour s'échauffer tant plus la cervelle, chantant, sifflant, s'encourageant et exhortant l'un l'autre de se porter vaillamment et de prendre force prisonniers quand ils iront en guerre, étant arrangés comme grues, ne cessent en cette sorte de danser et aller et venir parmi la maison où ils sont assemblés, jusqu'à ce que soit fait, c'est-à-dire, ainsi que j'ai déjà touché, qu'ils ne sortiront jamais de là tant qu'ils sentiront qu'il y a quelque chose dans les vaisseaux. Et certainement pour mieux vérifier ce que j'ai dit, qu'ils sont les premiers et superlatifs en matière d'ivrognerie, je crois qu'il y en a tel qui, à sa part, en une seule assemblée, avale plus de 20 pots de caouin. Mais surtout quant à la manière que je les ai dépeints au chapitre précédent, ils sont en plumassés, et quand cet équipage, ils tuent et mangent un prisonnier de guerre, faisant ainsi les bacchanales à la façon des anciens païens, sous semblablement qu'ils sont comme prêtres, c'est lors qu'il les fait bon voir rouler les yeux en la tête. Il advient bien néanmoins que quelquefois voisins avec voisins, étant assis dans leur lit de coton pendus en l'air, boivent d'une façon plus modeste, mais leur coutume étant telle que tous les hommes d'un village ou de plusieurs s'assemblent ordinairement pour boire, ce qu'ils ne font pas pour manger, ces buvettes particulières se font peu souvent entre eux. Semblablement aussi, soit qu'ils boivent peu ou prou, outre ce que j'ai dit, qu'eux n'engendrant jamais mélancolie, ont cette coutume de s'assembler tous les jours pour danser et s'éjouir en leur village. Encore les jeunes hommes à marier ont cela de particulier qu'avec chacun un de ces grands panaches qu'ils nomment araroy, liés sur les reins et quelquefois le maraca en main, et les fruits secs desquels j'ai parlé ci-dessus sonnant comme coquilles d'escargot, liés et arrangés à l'entour de leurs jambes, ils ne font presque autre chose toutes les nuits qu'en tel équipage aller et venir, sautant et dansant de maison en maison, tellement que les voyant et voyant si souvent faire ce métier, ils me ressouvenaient de ceux qu'en certains lieux par-de-ça on appelle valets de la fête, lesquels dans les temps de leur vogue et fête qu'ils font des saints et patrons de chaque paroisse, s'en vont aussi en habits de folle, avec des marottes aux poings et des sonnettes aux jambes, baguenaudant et dansant la morisque, parmi les maisons et les places. Mais il faut noter en cet endroit qu'en toutes les danses de nos sauvages, soit qu'ils se suivent l'un l'autre ou, comme je dirais parlant de leur religion, qu'ils soient disposés en rond, que les femmes ni les filles n'étant jamais mêlées parmi les hommes, si elles veulent danser, cela se fera à part elles. Au reste, avant que finir ce propos de la façon de boire de nos Américains sur lequel je suis à présent, afin que chacun sache, comme s'il avait du vin à souhait, il hausserait gaillardement le gobelet, je raconterai ici une plaisante histoire et toutefois tragique, laquelle un moussaka, c'est-à-dire bon père de famille qui donne à manger aux passants, me récita un jour en son village. Nous surprîmes une fois, dit-il en son langage, une caravelle de Péros, c'est-à-dire portugais, lesquels, comme j'ai touché ailleurs, sont ennemis mortels et irréconciliables de nos Tuyupinambous, de laquelle, après que nous eûmes assommé et mangé tous les hommes qui étaient dedans, ainsi que nous prenions leurs marchandises, trouvant parmi celles de grands caraménos de bois, ainsi nomment-ils les tonneaux et autres vaisseaux, pleins de breuvages, les dressant et défonçant par le bout, nous voulûmes tâter quel il était. Toutefois, me disait ce vieillard sauvage, je ne sais de quelle sorte de caouin ils étaient remplis, et si vous en avez de tels en ton pays, mais bien le dirais-je qu'après que nous en eûmes bu tout notre sou, nous fûmes 2 ou 3 jours tellement assommés et endormis qu'il n'était pas en notre puissance de nous pouvoir réveiller. Ainsi était vraisemblable que c'était tonneau plein de quelque bon vin d'Espagne, desquels les sauvages, sans y penser, avaient fait la fête de Bacchus. Il ne se faut pas ébahir si, après que cela leur eut à bon escient donné sur la corne, notre homme disait qu'il s'était aussi soudainement trouvé pris. Pour notre égard, du commencement que nous fûmes en ce pays-là, Pensant éviter la morcilleur, laquelle, comme j'ai naguère touché, ces femmes sauvages font en la composition de leur caouin, nous pilâmes des racines d'aipi et de maniotte avec du mil, lesquelles, cuits d'en faire ce breuvage d'une plus honnête façon, nous fîmes bouillir ensemble. Mais pour en dire la vérité, l'expérience nous montra qu'ainsi fait, il n'était pas bon. Pourtant, petit à petit, nous nous accoutumâmes d'en boire de l'autre tel qu'il était, non pas cependant que nous en bussions ordinairement, car ayant les cannes de sucre à commandement, les faisant et laissant quelques jours infuser dans de l'eau, après qu'à cause des chaleurs ordinaires qui sont là nous l'avions un peu fait rafraîchir, ainsi sucrée nous la buvions avec grand contentement. Même, d'autant que les fontaines et rivières, belles et claires d'eau douce, soient à cause de la température de ce pays-là si bonne, voire dirait sans comparaison plus saine que celle de Pardessa, que quoi qu'on en boive à souhait, elles ne font point de mal. Sans y rien mistionner, nous en buvions coutumièrement l'eau toute pure. À ce propos, les sauvages appellent l'eau douce où était, et la salée où est où, qui est une diction, laquelle eux prononçant du gosier comme les Hébreux font leur lettre qu'ils nomment guttural, nous était la plus fâcheuse à proférer entre tous les mots de leur langage. Finalement, parce que je ne doute point que quelques-uns de ceux qui auront ouï ce que j'ai dit ci-dessus, touchant la mâcheur et tortilleur tant des racines que du mil parmi la bouche des femmes sauvages quand elles composent leur breuvage d'icaouin, n'aient eu mal au cœur et en aient craché, afin que je leur ôte aucunement ce dégoût, je les prie de ressouvenir de la façon qu'on tient quand on fait le vin par deçà. Car s'ils considèrent seulement ceci, que dans les lieux mêmes où croissent les bons vins, les vignerons, en temps de vendange, se mettent dans les tines et dans les cuves, lesquelles à beaux pieds, et quelquefois avec leurs souliers, ils foulent les raisins, voire, comme j'ai vu, les patrouillent encore ainsi sur leurs pressoirs, ils trouveront que s'y passent beaucoup de choses, lesquelles n'ont guère meilleure grâce que cette manière de mâchiller accoutumée aux femmes américaines. Que si on dit là-dessus, voire « Mais le vin en cuvant et bouillant jette toute cette ordure !» Je réponds que notre caouin se purge aussi, et partant quant à ce point qu'il y a même raison de l'un à l'autre.